Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le débrief de la matinale.
Et le débrief de la matinale ce matin, c'est avec Éric Delannoy. Bonjour Wilfried Galland et Emmanuel Lechypre. Éric Delannoy, bien sûr, de Tenzing Conseil. Wilfried Galland, mon pensier financé. Emmanuel Lechypre qui habite ici à BFM Business. On va parler de la dette américaine. Retour au calme, Wilfried. Il y a quand même quelques embûches encore. On n'a pas trouvé un accord serein.
Bah, en fait, on a trouvé un accord, ce qui est déjà une très très bonne chose quand même. Hein, parce que il y avait une petite chance quand même pour qu'à la fin, on n'ait pas d'accord. Là, on a un accord.
Mais il y a encore du chemin.
Bah, en fait, on a maintenant 72 heures où les députés, en fait, les membres des les représentants républicains l'occasion de regarder cet accord, et on sait qu'on a déjà pas mal de représentants qui ont dit attention, ce n'est pas un accord qui est convenable pour nous, donc il va falloir peut-être renégocier un petit peu, encore un petit bout de chemin à faire.
Standard & Poor's, Éric Delannoy, faut avoir la trouille ou pas, la note qui pourrait être dégradée en fin de semaine?
Je pense qu'ils ont gardé, ils ont retenu les leçons de 2011, donc, enfin, j'espère en tout cas. Enfin, je vois pas comment ils pourraient continuer à jouer au feu avec leur note, alors que c'est aujourd'hui la note la mieux notée au monde. Hein, c'est la dette américaine, ça reste la valeur refuge. Je vois pas comment ils pourraient continuer à jouer avec ça, alors que on est sur des questions politiques d'ajustement budgétaire.
Pardon, je parlais de la France.
Ah, la France.
Ce sera à la fin de la semaine.
Ah, la France, pardon. Ouais,
excusez-moi,
non,
j'ai
fait
une mauvaise
France. La France.
Tant qu'on n'acceptera pas qu'il faut revenir à une orthodoxie budgétaire un peu plus importante, on fera toujours la course aux échalotes derrière la dette. Hein. Mais par contre, ça ne sera pas le même coût quand même. Hein. On en reparlera, mais les coûts augmentent.
On reviendra également sur la Turquie et sur le bilan économique d'Erdogan qui a été réélu cette nuit, notamment avec Wilfried. Mais un petit mot sur l'emploi, Emmanuel. On entendait Thierry Marx dire le compte n'y est toujours pas là. Il manque encore 200 000 personnes pour l'hôtellerie-restauration d'ici donc 15 jours.
Ouais, mais ça va être très compliqué parce qu'en fait il y a les phénomènes naturels, la démographie, etc. Mais il y a surtout le fait que il y a énormément de gens qui ont quitté ce secteur, qui travaillaient auparavant, et vous ne les referez pas revenir dans le secteur. Donc ça va être un été désastreux pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Non, mais ça va être c'est la réalité, c'est-à-dire qu'on va assister en direct à la poursuite de l'effondrement de notre offre touristique qui a déjà commencé. Non, mais je veux dire, la France, c'est un des pays où vous êtes les plus mal reçus quand vous êtes touriste. Faut arrêter de.
Alors, c'est pas ce que nous a dit Thierry Marx. Il nous a dit le problème aujourd'hui, c'est le logement.
Évidemment.
Il n'a pas dit, c'est l'accueil.
Non, mais évidemment. Mais s'il n'y a pas de logement pour les salariés des hôtels, restaurants, ça va quand même être terrible. Donc, il va y avoir des restaurants fermés, des restaurants où vous allez attendre des heures, des restaurants où vous allez manger n'importe
d'accord.
quoi.
Bon, ronchon enfin, du vendredi, ronchon du lundi. On l'a quitté comme on le retrouve, comme on l'a quitté.
Et en plus, avec ces histoires. En plus, avec cette histoire de durcissement, de l'immigration, des gens qui sont déjà les gens dont on a besoin, qui sont en train de travailler, qui ne sont pas des travailleurs au noir. Attention, c'est pas des travailleurs noirs, c'est des gens qui n'ont pas
qui payent des impôts.
Et qui payent des impôts, etc. Voilà, bon, ok.
À
tout à l'heure.
À tout à l'heure, à bientôt.
Good morning business, le débrief de la matinale.
Le grand débrief avec Emmanuel Lechypre, Éric Delannoy, président fondateur de Tenzing Conseil, Wilfried Galland, stratégiste chez Montpensier Finance. Et on commence donc avec la dette américaine. Est-ce qu'on assiste à un retour au calme? En tout cas, hier soir, Joe Biden a assuré avoir finalisé un accord budgétaire avec le leader républicain à la Chambre des représentants. Il s'agit de suspendre provisoirement le plafond de la dette, d'éviter donc le défaut de paiement tant redouté. Antoine Larigaudry, qu'y a-t-il au juste dans cet accord?
Beaucoup de concessions, surtout faites aux républicains. A priori, un peu de suspense, hein, puisque ça devrait être adopté, mais après, sans doute, quelques dernières négociations. Plafond de la dette relevé pour 2 ans, dépenses publiques stables pour l'année prochaine, hausse des budgets, notamment défense, réduction très nette pour les budgets spéciaux de lutte contre le Covid, rationalisation pour tout ce qui est environnement. On sent un projet qui va plaire aux républicains, et les démocrates, a priori, devraient suivre, puisque Joe Biden s'est vraiment engagé. Ça laisse un petit peu de marge aussi, vu que le défaut théorique est maintenant chiffré au 5 juin, donc on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Une bonne nouvelle en tout cas, qui écarte le risque de défaut. Maintenant, si on regarde les marchés, ils font pas grand-chose. Hein. C'est vrai qu'on avait déjà acheté un petit peu à crédit cet accord vendredi en clôture. On a eu des hausses d'1% pour Wall Street, pour le CAC 40, une baisse marquée de la volatilité. On sent que les marchés sont un petit peu moins crispés, mais il risque d'y avoir encore un petit peu de suspense ces prochains jours.
Éric Delannoy, vous allez dire que je cherche encore la crise partout, puisque pour raconter ce qui se passe en antenne, vous m'avez dit, c'est quoi la crise du jour ? J'ai dit, bah, les États-Unis, est-ce que c'était une fausse crise ? Est-ce qu'on a fait du théâtre ? Ou finalement, il y a encore des petits points d'achoppement quand même ?
Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu une grosse crise sur ce sujet-là en 2011. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Joe Biden était vice-président. Et que donc, il a quand même l'expérience de gérer ce type de crise, qui est quand même allé assez loin, puisqu'en 2011, Standard & Poor's avait décoté la note de la dette américaine. Et qu'à ce titre-là, ça donne un bon gage pour pouvoir le gérer aujourd'hui, de manière correcte, parce que c'est quand même quelqu'un qui vraiment connaît exactement les arcanes. Il faut rappeler que ce plafond de la dette, il est remis en cause très régulièrement. Il y a eu 80 fois depuis qu'il a été créé. Donc c'est un événement politique, c'est pas un événement économique. Et à ce titre-là, c'est pas une crise mondiale. Enfin, c'est juste.
Il n'y a pas une sensibilité politique particulière en ce moment.
Bon, aujourd'hui, la sensibilité particulière, ça va être est-ce que Trump se présente à l'élection présidentielle. C'est pas tellement le plafonnement de la dette. Ils vont forcément trouver un accord. Ça n'existe pas de ne pas trouver un accord sur le sujet, qui par ailleurs, il y a plusieurs manières de pouvoir passer outre. Donc, on est sur un accord politique qui tarde à venir. Et on le voit, il y a un ensemble de renoncements qui est en train de se faire. C'est un peu dommage parce que la politique américaine va s'en ressentir.
Emmanuel ?
Je pense que la messe n'est pas dite une fois qu'on sait s'il y a un accord ou pas un accord, parce que c'est pas la fin de l'histoire. Le fait qu'il y ait un accord, c'est que ça a des conséquences ensuite. Les conséquences, c'est d'abord les concessions qui vont être faites. Il faut se rappeler qu'en 2011, justement, Eric rappelait l'incident, ça s'était quand même traduit par des engagements de réduction massive des dépenses publiques. 900 milliards d'euros à l'époque
qui n'ont pas été tenus.
Mais bon, c'est quand même aussi potentiellement des dépenses, surtout des dépenses d'investissement d'ailleurs, qui pourraient être diminuées. Et puis cette histoire fait que si on relève le plafond d'un coup, vous aurez un appel d'air sur la liquidité, sur les marchés. Donc ça, c'est pas catastrophique, mais c'est perturbateur. Même une fois que l'accord a été signé, ça va générer un peu de perturbation sur les marchés et ça peut à la clé déboucher sur un peu de croissance en moins.
Wilfried ?
Ouais, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, la conséquence. Alors, d'abord, effectivement, il faut attendre la validation par le Congrès. Je rappelle qu'il y a eu effectivement, en particulier, un représentant de Caroline du Sud dès le début, Ralph Norman, qui a dit cet accord envoie directement les États-Unis vers la banqueroute. Je ne voterai pas cet accord. Donc, il va falloir qu'effectivement, on ait un vrai accord bipartisan au Congrès. Pour l'instant, c'est pas encore totalement donné. Et effectivement, dans les évaluations qui sont faites, je regardais ce matin l'évaluation qui a été faite par Moody's de l'évaluation sur l'économie américaine, si cet accord était effectivement mis en place, ils pensent que ce serait relativement faible en fait comme impact, mais qu'on pourrait avoir entre 100 et 120 000 créations d'emplois en moins par rapport à ce que ça aurait été en coupant les dépenses. Donc un petit effet macroéconomique, et effectivement, comme le soulignait très justement Emmanuel, il y aura, en tout cas dans les prochains jours, un effet financier qui sera important, parce que le compte du Trésor, le compte au Trésor, en moyenne, on est à peu près à 500 milliards de dollars de liquidités au Trésor. Là, on est tombé à 50. Donc, il va falloir très très rapidement émettre énormément de dettes. Ça va assécher un peu le marché obligataire. Donc, on va avoir des mouvements dans les prochains jours et dans les prochaines semaines qui vont être liés à ça, mais relativement limités a priori.
Bon, côté français, on discute aussi c'est pas pareil.
Deux salles, deux ambiances.
Nous, c'est entre le gouvernement et les agences de notation. C'est Standard & Poor's, on le disait tout à l'heure, qui doit publier donc son avis en fin de semaine. Ça sera vendredi sur la note de la France. Un mois, jour pour jour, un mois plus un. Après la dégradation donc de l'autre agence Fitch, Bercy fait tout pour éviter une déconvenue. Est-ce qu'on peut effectivement éviter cette nouvelle dégradation, Éric Delannoy?
Alors, je ne suis pas chez Standard & Poor's. Maintenant, les conditions de baisse de la note chez Fitch s'étaient faites au plus fort de la contestation sociale des retraites. Et donc, ça avait été d'ailleurs un argument important de se dire, finalement, il n'y a pas une capacité... Enfin, ce pays n'est pas gérable, quelque part. Dès qu'on veut faire quelque chose, on ne peut pas le faire. Et que donc, bon... Aujourd'hui, il y a quand même une situation qui revient un petit peu à la normale, avec un enchaînement assez cohérent de politiques économiques qui sont en train de se mettre en place, France Travail, la réforme du lycée professionnel, la réindustrialisation, qui redonne un petit peu de poids à une espèce de maîtrise de l'agenda économique. auxquels Standard & Poor's pourrait être sensible. Donc, encore une fois, je ne sais pas ce que ça va donner. Maintenant,
c'est ce que Elisabeth Borne a essayé de dire aussi, hein, de plaider pour sa paroisse en disant, voilà, on fait les réformes.
Et puis, Bruno Le Maire n'arrête pas de lancer ces messages-là, hein, sur le thème, il faut revenir à l'orthodoxie budgétaire, etc., etc. Maintenant, il faut en faire la preuve. Enfin, aujourd'hui, quand on regarde les différents engagements budgétaires, quand on regarde le déficit budgétaire de la France, bah, il est pas joyeux. Quand on sait par ailleurs que d'ici 2027, mécaniquement, la charge de la dette, donc les intérêts que l'on paye sur la dette, vont augmenter très fortement, il faudra à un moment trouver des économies budgétaires, ce qui n'est pas le sens de l'histoire, hein, le quoi qu'il en coûte, plus tous les chèques qu'on a donnés partout,
plus la transition énergétique,
ce n'est pas le sens de l'histoire. Or, c'est le sens des comptes publics, parce que la charge de la dette qui était de 20 milliards va passer à quasiment l'équivalent du budget de l'armée. En 2027.
Après, la question, c'est de savoir s'il n'y a que nous, journalistes, qui regardons les agences de notation ou si ça intéresse quelqu'un d'autre que nous.
Il y a aussi le marché financier.
Mais les marchés regardent vraiment ça, que ça a un impact. Nous sommes
deux dans cette histoire.
Oui, mais Fitch, ça n'a pas eu d'impact.
Ça n'a pas réagi.
Alors, non, parce que Fitch, c'est la troisième agence de notation, c'est la plus petite. Et il ne faut pas oublier là-dedans que la deuxième agence de notation, Moody's, le 21 avril dernier, a décidé de maintenir la note. Ils ont des normes un petit peu différentes. La norme est AA2 pour Moody's, ils ont décidé de maintenir la note de la dette française. Donc en fait, aujourd'hui, la clé, c'est effectivement la plus grande agence S&P, et l'impact, c'est effectivement tout simplement le fait d'avoir un renchérissement du coût de financement à la fois de l'État et de tous les agents économiques, parce que comme la dette d'État, c'est la référence pour tous les prêts qui sont faits aux ménages, aux entreprises, bah forcément, si vous prenez 10, 15, 20 points de base supplémentaires parce que votre note est dégradée, en ce moment, un ménage qui paye 4% de d'intérêt...
Il s'enlève une pièce.
Voilà, s'il passe à 4,2, il ne va pas être très content.
Emmanuel.
Est-ce que Standard & Poor's a un peu de mémoire et est-ce que Standard & Poor's regarde un peu les chiffres? Eric disait, effectivement, est-ce que ce sera crédible ou pas? La réalité, c'est que quand vous avez trahi tous vos engagements en matière de finances publiques depuis 40 ans...
Vous dégradez direct.
C'est-à-dire que, encore une fois...
C'est dégradateur.
C'est Einstein qui disait, il n'y a que les imbéciles qui pensent que quand vous faites exactement les mêmes enchaînements de choses, ça produit des conséquences différentes. La réalité, c'est que ça fait 30 ans qu'on promet qu'on va avoir une trajectoire de réduction des déficits publics et des dépenses publiques et qu'on ne les tient absolument jamais. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que toutes les promesses faites à Bruxelles sont trahies dans les grandes largeurs les unes après les autres. Qu'est-ce qui fait que dans les comptes publics français aujourd'hui et dans les trajectoires de nos finances publiques, il y ait des promesses qui soient plus crédibles que celles qu'on a faites par le passé? Et là encore, comme Eric l'a dit, c'est même encore pire cette fois-ci, puisqu'on a du mal à voir, compte tenu de tous les nouveaux postes de dépenses qui se profilent, compte tenu de la promesse qui a été faite...
Vous souhaitez presque une dégradation pour nous mettre un coup de pied aux fesses, pour dire...
Alors, la question...
C'est pas le jugement de Moody's, justement. Mais... Enfin, c'est important à dire. C'est pas le jugement de Moody's. Moody's nous dit la trajectoire, elle est cohérente avec leur note, qui est l'équivalent de la note AA, qui est AA2. En fait, elle est pilotée de façon cohérente.
Déjà, AA2, c'est plus, on n'est plus vraiment dans les premiers de la classe.
Ouais. Non, mais enfin, on est de bonne qualité de crédit. AA2, je prends.
Bonne qualité de crédit, j'achète. D'accord. Mais je veux dire, alors après, l'investisseur, il fait ce qu'il veut. Mais en général, si vous regardez ça de loin, parce qu'en fait, bon, le rôle de l'agence de notation, c'est ni plus ni moins que à la finance, ce que le guide Michelin est à la gastronomie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros,
vous êtes de plus en plus méchant.
Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que quand vous êtes investisseur, le but de la note, c'est de savoir est-ce que vous faites confiance, vous ne jugez qu'une seule chose quand vous notez, c'est quelle est la capacité du pays à rembourser plus ou moins facilement sa dette. Et la réalité, c'est que quand on voit qu'il y a de plus en plus de dépenses qui vont arriver, qu'on nous dit qu'on n'augmentera pas les impôts, là pour le coup, les contradictions de la politique budgétaire française, elles n'ont jamais été aussi...
Éric, après on va dire un mot de la Turquie.
Oui, juste un peu, ce qui peut prendre un peu plus de signification sur cette fois-ci, donc il y a intérêt à ce que la note se dégrade pas, c'est que la note S&P a été dégradée pour la France deux fois ces 20 dernières années de mémoire, et donc ça, on en a tenu compte déjà. Le problème, c'est qu'on arrive dans des zones, même si AA2 c'est plutôt pas mal, on arrive dans des zones où quand on va continuer à se faire dégrader, on va rentrer dans des modes spéculatifs où l'importance relative de la dégradation sera de plus en plus forte pour les investisseurs. Donc c'est juste ça qu'il faut regarder, et il n'est pas souhaitable justement que ça aille dans ce sens-là.
Et autre sujet dans l'actualité de la matinée, c'est la Turquie, avec le président Erdogan qui est donc reconduit à la tête du pays. Le candidat de l'Alliance des partis de l'opposition reconnaît, lui, sa défaite, mais parle de l'élection la plus injuste depuis des années. Une victoire qui inquiète aussi sur le plan économique, car Erdogan promet de garder le cap de sa politique monétaire en particulier, politique pourtant décriée par les économistes. Écoutez Denis Unal, chercheur au CEPI, elle était avec nous tout à l'heure.
Nous, les économistes, nous sommes franchement fatigués d'essayer de trouver une raison à la politique monétaire menée en Turquie. On a donc un taux directeur de la Banque centrale de 8,5%. On a un taux d'inflation, vous avez parlé de 44%, moi il me semblait que c'était 50%, mais peu importe parce qu'on ne fait plus confiance aux chiffres officiels. Donc entre les deux, on a des taux d'intérêt négatifs, et avec ces taux d'intérêt négatifs, on ne voit pas comment on va venir à bout de l'inflation.
Wilfried Galland, l'inflation en Turquie, c'est autre chose que chez nous quand même.
Oui, c'est autre chose que chez nous, mais moi ce que je trouve très intéressant, c'est que je ne suis pas du tout en faveur des expérimentations
de politique monétaire
un peu audacieuses, mais en fait, il faut quand même reconnaître qu'on part de 80% d'inflation, on a baissé les taux et aujourd'hui on est à 44% d'inflation. Alors c'est encore énorme, mais malgré les baisses de taux, l'inflation baisse. Ce qui veut clairement dire que, en tout cas, une partie du raisonnement économique était de dire, en fait, on est en train d'appliquer un raisonnement monétaire à un phénomène qui est un phénomène lié...
C'est repartir par la dette.
Exactement, à des approvisionnements qui sont en fait totalement perturbés, qui sont en train de se normaliser. Cette partie-là n'est pas dénuée de fondement. Donc, le pari d'Erdogan qui est de dire, je vais m'en sortir par la croissance... n'est peut-être pas un pari qui est encore complètement perdu. Il est extraordinairement... Les équilibres sont très forts dans le pays. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'ils sont plutôt en train de se réduire, ces déséquilibres, par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques mois. Donc je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'humilité. En tout cas, ce que nous ont dit les Turcs dans cette élection-là, c'est que l'important, c'était la fierté qu'avait redonné Erdogan au pays, et que l'économie et l'intendance suivra. Aujourd'hui, l'économie a tendance à suivre un peu, donc en tout cas, rien n'est définitif dans ce pays.
Eric.
Oui, enfin, je suis assez d'accord. Enfin, le signe de cette victoire, c'est quand même de dire que c'est pas l'économie qui fait l'élection, mais c'est plutôt l'identité. Et c'est la continuité dans une forme d'identité qu'il représente, quel que soit, enfin, quoi qu'on en pense, en fait. Et que donc, à ce titre-là, et notamment au titre géopolitique, où quand même Erdogan a installé une présence géopolitique qui crée des stabilités là où il est, notamment par rapport à la Russie, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que son candidat, qui semblait être beaucoup plus pro-européen, progressiste, etc., en fait cultivait une assez brillamment l'ambiguïté, et qu'à ce titre-là, on serait rentré dans une zone d'incertitude dont on pense qu'on aurait pu en tirer quelque chose de positif. Avec Erdogan, il n'y a pas de surprise à avoir. Les positions dures sont déjà installées, les positions géopolitiques sont déjà installées, on connaît ses combats, et par ailleurs, au niveau économique, s'il n'a pas été sanctionné, c'est parce qu'il y a aussi quelques bonnes nouvelles. Donc je pense que c'est pas un non-événement, mais en tout cas c'est une solution de continuité qui devrait permettre de faciliter notamment les discussions avec la Russie demain.
Autre sujet d'actualité qu'on a largement traité dans cette matinale aujourd'hui, c'est les difficultés de recrutement de l'hôtellerie et de la restauration. L'UMI lance ce matin Mon CV numérique pour réussir à attirer des gens, mais partout c'est compliqué. Thierry Marx était avec nous tout à l'heure.
Et bien sûr qu'on aimerait faire mieux, mais aujourd'hui les résultats de l'entreprise ne le permettent pas, et on a hélas beaucoup d'entreprises qui sont encore en fragilité. Donc cette inflation, évidemment, elle va peser sur nos salariés, mais on fera le maximum s'il y a une bonne saison, bien évidemment que nous repartagerons cette valeur. Quand les entreprises vont bien, nos salariés vont bien, on essaie de faire en sorte de les fidéliser aussi par leur rémunération.
Emmanuel Lechypre, vous aimez bien dire du mal de l'hôtellerie-restauration et de l'attractivité, mais je reviens quand même au problème de logement, si vous aimez bien dire du mal.
Mais pas du tout, mais non, mais n'importe
Thierry
quoi.
Thierry Marx nous disait ce matin, le positif, problème c'est le logement désormais.
Mais non, mais le problème c'est pas de dire du mal de l'hôtellerie-restauration, c'est de constater que c'est un secteur aujourd'hui qui est dans une immense difficulté effectivement de recrutement, de main-d'œuvre, et que tout ça est lié à des raisons qui se sont révélées, qui ont été accélérées et aggravées par la crise sanitaire, mais qui étaient des raisons structurelles. Alors il y a des efforts qui sont faits sur l'attractivité, sur les salaires, et ça va sans doute porter ses fruits. La réalité, c'est que les dizaines de milliers de salariés qui travaillaient dans ce secteur et qui sont allés chercher meilleure fortune ailleurs pendant la crise sanitaire, ils ne sont jamais revenus, et que ça, c'est extrêmement compliqué de combler finalement ces déficits de postes. Combiné à ça, le fait qu'il y a moins d'emplois saisonniers parce que c'est moins la tradition que ça a été le cas il y a quelques années, on va se retrouver devant une pénurie de main d'œuvre qui va mettre en cause comme jamais le fonctionnement de tout un tas d'établissements, y compris dans les zones extrêmement touristiques, et que la dégradation de la qualité de l'offre touristique qu'on constate année après année, eh bien, elle va encore s'accélérer cette année. Ça veut dire que vous allez aller dans plein de régions de France où ce sera impossible de se faire accueillir dans un restaurant.
Il manque encore entre 200 et 250 000 personnes là, d'ici.
Et c'est absolument, absolument considérable. Donc la France, qui était déjà sur une pente inquiétante en matière d'accueil des touristes, notamment.
C'est fini.
Regardez tous les classements internationaux qui montrent que la qualité de l'accueil en France n'est pas très bonne.
Et ben, ça va pas s'arranger cet été. Et on va finir sur cette note
bon
de désespoir.